La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Aujourd'hui, La main à la pâte a deux nouvelles voix. Nous sommes Julie et Léna, salariées d'Impact.
Dans chaque émission, nous vous emmenons à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La main à la pâte. Je suis aujourd'hui en compagnie de Léna pour animer cette nouvelle émission sur le thème du revenu paysan et du coût de l'alimentation. En ce contexte d'inflation, nous avons eu envie d'aller à la rencontre de paysans et paysannes du réseau du département d'Indre-et-Loire. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Magali Savaton de la ferme de la Thibiaudère et Guillaume Geffard des 4 saisons de la Morinerie. Bonjour.
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 Donc on a une première question. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter rapidement vos fermes et quels sont les circuits de commercialisation que vous avez choisis ?
Bonjour, Magali Savaton, donc la ferme de la Thibaudière. Nous, on est une ferme de 130 hectares à peu près, en bio depuis une cinquantaine d'années pour les premières terres reconverties en bio. Donc en polyculture, polyélevage, nous sommes 4 personnes. Deux associés, deux salariés sur la structure. Et on produit des céréales pour faire de la farine, des oléagineux pour faire de l'huile, légumes secs, viande bovine, viande porcine qu'on transforme à la ferme. Donc les circuits de commercialisation sont très variés, particuliers, restaurants collectifs ou commercial, revendeurs, magasins, et voilà.
Guillaume Geffard, donc on est maraîcher à Saint-Pierre-des-Corps, dans une ferme urbaine de 3 hectares de surface, avec 1,5 hectare cultivé en maraîchage, 10% à peu près de la surface couverte en serre. Il y a à peu près 4 équivalents temps plein, un petit peu plus sur l'année. Nous avons une 70 espèces de légumes aromatiques cultivées ici. C'est une ferme qui appartient à la métropole de Tours. Et nous sommes installés ici depuis 2019, 2020, on a commencé la production. Donc c'est très récent. Les ventes, donc c'est principalement de la vente directe. Et un petit peu de circuit court, donc vente directe, on a la vente sur place et une AMAP, donc des paniers qui sont achetés à l'avance par des consommateurs de Saint-Pierre-des-Corps principalement. Et un petit peu, donc pour un quart de nos ventes en circuit court, que ce soit restaurateur et magasin bio ou épicerie bio.
On entend beaucoup parler qu'il y a une baisse de la consommation des produits bio et qu'en général, les gens dépensent moins. Est-ce que vous l'avez ressenti vous-même sur vos ventes ?
Bah nous, comme on est installé donc depuis peu, on va dire 4 ans maintenant, ce qu'on peut observer en tout cas, c'est qu'on a eu tout de suite un certain effet Covid, où les personnes cherchaient à s'approvisionner localement parce qu'ils avaient le temps, parce que ils ont ils avaient peut-être le temps aussi de réfléchir à autre chose. Donc on a tout de suite eu ça. Effectivement, on a eu une grosse, beaucoup de monde qui sont venus directement là dès le début. On a ressenti la baisse dès le déconfinement. Et depuis ce déconfinement, donc il y a 1 an et demi maintenant, on va dire ça, petit à petit, ça remonte, en tout cas en vente directe. Concernant les autres circuits de distribution, les restaurants ont et continuent de jouer le jeu. Ça fonctionne assez bien sur de la restauration, c'est pas de la restauration collective, vraiment de la petite restauration, pas comment on peut appeler ça, loisir, récréatif, commercial. Par contre, pour ce qui est magasins spécialisés, donc on avait à une période Biocoop et autres, Coop Nature, je ne sais pas s'il faut les citer, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces magasins bio, spécialisés bio, on a tout de suite senti alors une grosse baisse, ce qui fait qu'on a arrêté certains en se disant que ça ne servait à rien de se partager un petit gâteau, qu'on allait laisser à d'autres et qu'on allait plus s'orienter sur de la vente directe. Donc ça s'est fait comme ça, et ce qui fait que voilà, clairement là-dessus, nous on a le seul magasin spécialisé bio qu'on a gardé, c'est voilà, ça reste des commandes assez assez faibles, et on a perdu quelques épiceries qui ont fermé depuis. Donc voilà, c'était pas nos principaux clients, mais n'empêche que voilà, ça joue quand même. Donc on a pu compenser malgré tout sur les restaurateurs et la vente directe. Mais oui, on a ressenti ça sur ces magasins-là.
Alors nous, ce qu'on a constaté, alors effectivement, hein, l'effet Covid, il y a eu une énorme augmentation de consommation, que ce soit aussi bien sur les magasins, donc avec juste un intermédiaire, que ce soit sur le point de vente, que ce soit au marché. Donc les choses après le Covid se sont restabilisées. Il y avait une bonne dynamique encore sur les magasins, sur le marché et sur le point de vente de la ferme. Mais là, depuis le début de l'année, alors sur le marché, il y a toujours cette dynamique. Au niveau des AMAP aussi, sur le point de vente, ça s'est stabilisé. Mais par contre, on a constaté effectivement une baisse au niveau des ventes via un revendeur.
Est-ce qu'on peut dire que l'inflation influence votre activité et notamment vos prix ?
Ah oui, effectivement, à un moment donné, ça influe forcément sur nos prix, puisqu'on est comme tout le monde, on a les charges, que ce soit l'électricité. Nous, faisant de la farine, faisant de l'huile, découpant, donc ayant des chambres froides, etc., ça tourne pas sans rien. Il faut un petit peu d'électricité. On pédale pas à côté. On le constate au niveau des carburants, hein, même les carburants que l'on met dans les tracteurs. Après, on le constate sur tout ce qui est pièces détachées, quand on fait de l'entretien mécanique, quand on reconstruit sur les matériaux, sur toutes ces choses-là. On l'a ressenti beaucoup aussi sur les emballages, où on a dû changer les contenants parce qu'on ne trouvait plus les contenants qu'on voulait. Ou alors, pour ne pas trop augmenter, changer les contenants pour arriver sur des bouteilles un petit peu moins chères, hein, que ce soit bouteilles ou cartons d'ailleurs. Automatiquement, nos prix ont augmenté. Mais beaucoup moins, je pense, que ce que l'on peut trouver en grande surface. Puisque cette année, on a dû faire une augmentation à peu près de 6% sur nos produits. Là où on a la chance, nous, pour pouvoir réduire et compenser un peu cet effet-là, c'est qu'on est complètement autonome au niveau de l'alimentation de nos animaux, puisqu'on autoproduit tout. Et on est également autonome au niveau des amendements. Donc on n'a pas cette inflation. Après, il reste une petite partie des semences.
Est-ce que tu peux nous dire, Magali, que veut dire un amendement ?
Alors, un amendement, en fait, c'est un engrais. Hein, si je veux vulgariser un petit peu le mot, c'est un engrais, tout simplement. Donc, en fait, il faut savoir qu'en bio, on est moins touché quand même. Parce que les amendements sont faits à partir de matériel, de choses naturelles, qu'en conventionnel, ils utilisent du pétrole. Donc, avec la hausse du pétrole, forcément, les engrais azotés ont fortement augmenté.
Nous, pour notre part, nos coûts et nos charges sont principalement en maraîchage dû à l'embauche de salariés. Et donc, le SMIC ayant augmenté, ce qui est tout à fait logique au vu de l'inflation, on a augmenté en se disant on se base sur l'augmentation du SMIC. On a augmenté nos prix par rapport à cette augmentation du SMIC. Donc, en 2022, c'est ce qui s'est passé. Le SMIC avait pris 7%, donc à la fin de l'année, donc on le fait en plus avec du retard malgré tout. Donc en septembre, on avait augmenté de 7%. Là, cette année, on ne l'a pas encore fait et le SMIC a augmenté de 5%. Voilà, pour le reste de nos charges, effectivement, hein, ça a pris quand même beaucoup plus, mais nous, en charge énergétique, c'est faible, la part que ça prend dans notre ferme. Par contre, oui, tous les intrants, que ce soit engrais, amendements, terreau pour faire nos semis, tout ça, ça a pris, je ne saurais plus dire combien, c'est entre 10 et 15% sur certains. Voilà, mais ça ne nous a pas empêché, pour le coup, de pas aller chercher au moins cher. On continue, au contraire, à se dire comment on fait les choses dans le bon sens. Je vais prendre l'exemple du terreau, où le terreau est principalement de la tourbe. La tourbe qui est un matériau non renouvelable. On pourrait aller chercher des terreaux très peu chers avec beaucoup de tourbe. Et nous, on va plutôt dans l'autre sens. on continue à aller dans cette recherche-là et on n'est pas dans la recherche toujours malgré tout du prix le moins cher quoi. Ça c'est important à rappeler aussi, c'est qu'on a quand même des engagements, voilà, une valeur écologique forte qui nous amène à réfléchir à ça. Il y a un réel impact qu'on essaye d'imputer quand même malgré tout nous sur nos prix.
Alors peut-être plus précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont fixés les prix de vos produits ?
Alors, nous, pour fixer nos prix, donc, on va prendre déjà le prix de la matière première. On va ajouter la transformation, le prix et les charges qui incombent, donc électricité, etc. Si par exemple, je prends de l'huile, donc on va compter le tournesol, on va compter la presse, l'énergie qu'il faut. Ensuite, on va compter le contenant. L'étiquette, ça paraît bête, mais c'est cher une étiquette. la main d'œuvre pour faire tout ça et voilà, et on va avoir un prix. Ce prix, après, on va le modérer, ou à la hausse ou à la baisse, hein, si effectivement on va regarder un petit peu ce qui se passe à côté, chez les voisins, au niveau un petit peu plus national, etc. Et puis, s'il nous paraît déconnant dans le mauvais sens, ben on va le baisser, même si effectivement il faut rogner du coup sur notre marge à nous. Donc souvent c'est notre main d'œuvre, hein. Du coup on compte un petit peu moins notre temps. Voilà, c'est rarement dans l'autre sens. voilà, c'est à peu près comme ça qu'on fixe un prix. Enfin, il faut faire une équation un peu bizarre entre ce qui est acceptable pour le consommateur, ce qui paraît pas être trop déconnant non plus, mais aussi pour nous. Et avec quoi on vit, quoi. C'est notre salaire au bout du compte qu'on parle.
Oui, en maraîchage, c'est pas très différent finalement. Il y a des charges directes avec des terreaux, des engrais, des voiles qu'on peut mettre pour protéger les plantes, etc. Donc ça, il faut pouvoir globalement essayer de le répartir sur chaque culture. C'est pas toujours simple. On le fait quand on calcule un prix de revient, on va le faire sur des cultures bien spécifiques, hein, on va pas le faire sur nos 60 légumes, on va le faire sur quelques cultures un peu classiques, des carottes, des tomates, des choses comme ça, qui participent beaucoup au chiffre d'affaires de l'entreprise, quoi, de la ferme, ce qui fait que on essaye grosso modo de calculer avec, et puis bien sûr la main d'œuvre, quoi, et on essaye, nous, de nous calculer aussi comme si on était payé au SMIC. On a un prix à la fin auquel on devrait le vendre et on regarde les mercuriales qui circulent en région centre sur ces produits-là, à combien sont vendus le kilo de tomate en vente directe. On peut aussi aller chercher donc le kilo de tomate vendu en grossiste sur différents sites. Voilà. Et ça permet après de réajuster, de se dire est-ce qu'on est vraiment éloigné. Ça peut même arriver qu'on se dit dis donc, on a l'air bien bas par rapport aux autres. Donc effectivement, on réajuste en disant peut-être qu'on a loupé une étape dans notre calcul du prix de revient. Ça peut aussi arriver, ça. Donc voilà, donc ça, on essaye de le faire. On ne peut pas le faire sur tout, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et à la fin, souvent, c'est ça, c'est une espèce de bidouillage en se disant, finalement, on se rapproche quand même, on essaye de se rapprocher un peu tous de ce qui se fait en termes de prix de vente, quoi, entre nous dans la région centre.
On entendait récemment sur le marché Convergence Bio quelqu'un qui parlait du prix des tomates qu'il trouvait particulièrement élevé et qui nous a dit « mais il faudrait qu'un jour quelqu'un m'explique pourquoi c'est si cher ». Quand quelqu'un vous dit que les produits bio et locaux sont chers, qu'est-ce que vous répondez ?
Alors sur la tomate en particulier, donc c'est... Allez, je prends le micro. La tomate, si c'est un exemple qui a été pris, parce qu'effectivement, c'est quand même un produit qui est bien consommé l'été et qui, malgré tout, je suis d'accord, ça a un certain coût. Nous-mêmes, on les vend à 5 euros le kilo. Mine de rien, une tomate, ça demande une serre. Et donc, une serre, c'est de l'investissement. Ça nécessite de faire des plants très tôt parce que tout le monde veut les avoir tôt, ces tomates, donc il faut les planter en mars. Et pour les avoir en mars, il faut les semer en janvier Pour ça, ça nécessite pas mal d'énergie en termes de lumière et de chauffage pour faire ces plans, quoi. Donc nous-mêmes, on ne les fait pas, mais on les achète et ça a des pépiniéristes qui le font. Et donc ça a un certain coût. Et ça nous permet d'avoir des tomates mi-juin, donc c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc voilà, il y a ces plants, il y a la tomate est gourmande en plein de minéraux du sol, donc il faut lui apporter. Et beaucoup, 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 beaucoup de temps de main-d'œuvre. Une tomate, c'est énormément de temps à palisser, tailler, surveiller les maladies, parce que c'est une culture qui est tellement importante qu'on n'a pas le droit de se louper. Donc beaucoup de surveillance, et en fin de saison ou en milieu de saison, on n'est pas à l'abri avec une météo un peu humide, d'avoir du mildiou, et donc voilà, faut bien penser à régulièrement aller voir, à protéger. Donc c'est une des cultures qui nécessite le plus de temps de main-d'œuvre, alors que ça représente, nous sur notre ferme, 5 fois 250 mètres carrés sur un hectare et demi, quoi. Et vraiment, l'été, on y passe au moins 2 jours une personne par semaine. Donc entre cueillette, taille, effeuillage, enfin voilà, tout ce que j'ai énoncé. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc le cas de la tomate qui peut être citée, et ça est à 5 euros le kilo, il faut rappeler qu'on ne paye les gens qu'au SMIC. Enfin voilà, c'est important aussi de rappeler que le SMIC, on est d'accord, c'est le minimum vital, paraît-il. Qu'on a finalement, la plupart des gens ont envie de gagner un peu plus, donc voilà, quid du prix de la tomate si on se disait qu'on devait être payé un peu plus que le SMIC, quoi.
En fait, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de consommateurs qui viennent sur les circuits courts, sur les marchés, à la rencontre des producteurs, pensant trouver des bonnes affaires et des prix pas chers par rapport à la grande surface, pensant que effectivement les grandes surfaces se mettent des grosses marges dans leur poche. Alors, c'est pas que les grandes surfaces. Hein. Donc, ils sont souvent déçus par les tarifs pratiqués. Beaucoup ne s'imaginent pas qu'en France, sur une filière alimentaire, donc le producteur, le transporteur, la coopérative, on va dire, le transformateur, le distributeur, chaque maillon est aidé. Donc, quand on est producteur et qu'on remplace et qu'on englobe tous les maillons, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les subventions. Donc, effectivement, le prix à l'arrivée n'est pas très différent. Donc, peut-être un peu décevant pour le consommateur, mais la différence est peut-être aussi qu'il manque de transparence sur les aides accordées aux uns et aux autres.
Justement, est-ce que vous bénéficiez d'aides, notamment d'aides de la PAC, de la politique agricole commune ?
Oui, tout à fait. Et heureusement, parce qu'en fait, souvent, les gens s'imaginent que c'est une subvention et c'est juste un cadeau. Il faut rappeler quand même que les aides PAC sont là pour ne pas vendre à perte. Donc, en fait, on ne pourrait pas se rémunérer. Clairement, l'agriculture est un des seuls métiers où il est accepté qu'on puisse vendre à perte. Donc oui, on touche des aides. Elles sont variables, très variables, selon les fermes. Malheureusement, elles sont à l'hectare. Et non, je ne sais pas, pourquoi pas l'utopée ou unité temps de main-d'œuvre, enfin temps de travail. Et du coup, celui qui rentre dans ce système-là, plus il a d'hectares, plus il aura d'aide. Donc plus il aura de facilité pour grossir. Et c'est un petit peu injuste, mais bon, c'est comme ça, quoi. Prenons imaginer les choses. Si un agriculteur touche 150 euros de l'hectare, c'est sûr que s'il a 10 hectares, il va toucher 1 500. S'il en a 100, il va toucher 15 000. Et s'il arrive à 200, 300, 400, c'est d'autant plus. Donc ce sera plus facile pour lui, effectivement, de payer ses charges, etc. En fait, plus on est petit, plus il faut être bon en rendement, etc. et technique, en fait. C'est ça ce que ça incite.
Alors, les aides PAC en maraîchage, c'est assez particulier. Comme on a des petites surfaces, globalement, sur des fermes maraîchères bio, en vente directe, sous ce format-là, et même les maraîchers en général sont peu. Enfin, ce ne sont pas des fermes très gourmandes en PAC, en aides PAC, puisque, comme disait Magali, c'est des aides à la surface. Le maraîchage, c'est beaucoup de temps passé à la surface, donc on ne peut pas cultiver des grandes superficies. Et de fait, on capte moins d'aide. Et donc, ça doit aussi jouer globalement sur le prix des légumes, finalement. C'est que, comme on a peu d'aide PAC, on est quasiment obligé, enfin, on est obligé, pour que la ferme tienne le coup, de mettre le prix qui permette finalement de subvenir au coût de la ferme, quoi. Donc, jusque-là, nous, on n'avait pas d'aide PAC. Il y a eu du nouveau là depuis cette année où on aura peut-être droit à un petit peu d'aide, mais il faut savoir que sur un hectare et demi de maraîchage cultivé, si on touche 2000 euros, ce sera le bout du monde. Donc 2000 euros, ça permettra de payer un salarié un mois et bon, c'est pas mauvais à prendre, mais c'est quasiment niet, enfin pas grand chose par rapport à d'autres types d'autres filières. Après, je ne sais pas si c'est le lieu de parler en bio du crédit d'impôt, mais ça pourrait.
Crédit d'impôt, d'aide bio, du maintien bio, etc. Oui, effectivement, après, il y a différents paliers. Il y a des choses où on va toucher un tout petit peu plus, mais qui ne compensent pas forcément le fait qu'en bio, historiquement, on avait moins d'aide, parce que ce n'était pas à l'hectare, mais à la production. Et que, les bio historiques n'étaient pas tellement des chasseurs de primes, à dire vrai. C'était pas tellement la politique, ils cultivaient ce qu'ils avaient besoin, ou pour leurs animaux, ou pour leur production, mais pas ce qui était primé. Par exemple, vous aviez la culture du tabac, où il y avait des primes qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 euros de l'hectare. Il y avait de l'irrigation, si vous faisiez de l'irrigation, si vous faisiez du maïs, enfin, si vous rentriez vos vaches, que vous leur donniez de l'ensilage, vous aviez une prime et sur les animaux et sur l'ensilage, contrairement aux bio qui, eux, sont restés avec des pâtures, où ils avaient une prime seulement sur les animaux. Si en plus votre ensilage pour faire du maïs vous irriguiez, vous aviez une prime supplémentaire. Donc en fait, la PAC a incité et a dirigé en fait l'agriculture comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est un peu dommage qu'elle ait servi dans ce sens-là, où finalement on se rend compte que écologiquement on va dans une agriculture qui est un peu la tête à l'envers. On va dire comme ça, et qu'aujourd'hui, on ne se serve pas de cet outil-là pour peut-être proposer autre chose.
Alors, on a relevé un chiffre selon l'INSEE en 2018. Il y a 18% des agriculteurs et agricultrices qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui a été fixé à 13 000 euros par an pour une personne seule. Est-ce que vous, justement, vous parvenez à vous rémunérer ?
Nous, on peut considérer qu'on se rémunère. Je ne connaissais pas le chiffre, le revenu qui correspond au seuil de pauvreté qui est de 13 000 euros. De fait, on peut dire qu'on se situe quasiment là-dedans, mais on se rémunère malgré tout depuis le début. Après, on peut considérer qu'on a des petits avantages à la ferme, mais est-ce que ça compense ce faible revenu, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le temps travaillé, savoir en moyenne 45 à 50 heures semaine sur l'année, on peut poser la question, est-ce que c'est décent d'avoir ce revenu de 12 à 13 000 euros net par an ? Donc nous c'est ce qu'on gagne. Peut-être que on considère pour l'instant que c'est OK. Mais pour combien de temps ? On a des enfants qui feront des choses, des études, je ne sais pas.
Alors nous, on commence à se rémunérer de façon plus régulière, on va dire. Ça va faire 15 ans qu'on a réinstallé la ferme complètement. Bon, après, c'était un gros challenge, certes, mais effectivement, on peut dire que toute notre vie privée est passée dans le professionnel. après, effectivement, on a des avantages, comme disait Guillaume, on a une vie bucolique, c'est formidable. Non, peut-être qu'il y a, il y a quand même une qualité de vie, quoique malheureusement, elle est de plus en plus entachée par le côté administratif de notre métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-évalue aussi enfin, on parlait du prix. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-évalue. On parle de l'inflation de plein de produits, mais on parle pas de l'inflation, enfin, de l'augmentation des charges, par exemple, par rapport aux frais de gestion, de comptabilité, où en fait on nous impose de plus en plus de papiers. Donc qui dit plus de papiers, plus de documents, dit un coût plus élevé en comptabilité. C'est voilà. Mais bon, après, oui, on se rémunère. Si vous voulez être riche en agriculture, ce ne sera pas riche d'argent. Ce sera riche de plein d'autres choses, mais pas forcément d'argent.
Donc sur 100 euros dépensés en alimentation, seuls 7 euros reviennent à l'agriculture, entre le commerce, les services, les restaurations, etc. Quelle est la différence de rémunération pour vous entre la vente directe et les circuits longs ?
Alors la différence, c'est qu'on fixe quand même notre prix. Lorsqu'on est en circuit long, notamment, je parle là vraiment des céréales, des filières de viande, c'est que vous n'avez pas la mainmise sur les prix. C'est que malgré, normalement, la loi de modernisation de l'agriculture, il devrait y avoir contractualisation. Or, cette année encore, malheureusement, sur les blés, par exemple, il n'y a pas eu de contractualisation. Très peu ont signé des papiers avant la livraison. Et nous avons dans mes collègues autour de nous et que l'on connaît, quasi tous livrés sans savoir trop le prix auquel on allait être payé. Et cette année, le prix du blé est catastrophique. Alors que le prix de la baguette, à l'arrivée, il n'a pas diminué. On est au prix d'un blé conventionnel il y a 5 ans à peu près. La compensation qu'on a quand même en circuit long, c'est vrai qu'il y a plus de travail, il y a plus de risques. Il faut répondre, c'est très exigeant en termes de normes, etc. Si on prend les filières viande, toutes les normes alimentaires qu'on peut avoir sur un laboratoire, découpe, etc. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a une autre satisfaction. Il y a non seulement, on a pu maîtriser beaucoup mieux quand même finalement notre prix, et puis on a quand même la satisfaction du consommateur. Et ça, pour nous, je pense que si on parle de prix, je ne sais pas si ça a beaucoup de prix.
Nous, comme je disais tout à l'heure, on a nos deux tiers, trois quarts de ventes qui se font en vente directe. La vente en circuit court, on a fait le choix, en regardant un peu le temps qu'on pouvait passer à faire de la vente, ce temps de commercialisation qui n'est pas négligeable quand on fait de la vente directe, qui prend un peu plus de temps. On a fait le choix de calculer ce temps-là et de dire ça représente 10 à 15% de la du temps de main-d'œuvre. Mais malgré tout, on est quand même finalement beaucoup plus satisfait du travail qu'on fait et en vente directe avec les retours clients, comme disait Magali. C'est une autre sorte de rémunération d'avoir ce retour direct client. On peut l'avoir aussi avec les restaurateurs, donc là aussi, c'est pour ça qu'on a choisi ces filières-là. Mais c'est quand même, ça reste aussi un vrai projet professionnel de se dire on vend en vente directe parce qu'on s'y retrouve, quoi.
Juste la différence entre le circuit long et le circuit court. Si nous, notre ferme, on devait la repasser complètement en circuit long, aujourd'hui, il n'y aurait qu'une personne sur la ferme. Voilà. Donc, au lieu de 4 personnes, il y aurait une personne. Et puis, il n'y aurait pas autant de production diversifiée qu'on a. Il y aurait des céréales, peut-être un élevage, parce qu'effectivement, on a des zones humides. Donc, ça convient très, très bien à l'élevage. Mais il n'y aurait pas plus.
On va vous proposer de nous faire passer un petit mot pour la fin. Quel message vous souhaiteriez adresser aux habitants et habitantes de la région ?
En fait, ce que je voudrais expliquer, c'est que certes, effectivement, on est tous pareils. On n'a pas envie de dépenser beaucoup. On a d'autres priorités. Les priorités, aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, elles sont multiples. On a envie de loisirs, on a envie de multimédia, on a envie de voyager. Et en plus, il faut payer de l'alimentation. Et c'est vrai que des fois, on ne met pas l'alimentation sur le premier des priorités. Et elle est un peu secondaire. Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il faut aussi faire attention parce qu'aujourd'hui, on peut trouver l'alimentation trop chère. Mais demain, on risque de l'avoir encore plus chère. Ce qu'il se passe dans les campagnes, c'est que les petites fermes comme les nôtres, elles ont de plus en plus de mal à se développer, à survivre. Et malheureusement, beaucoup arrêtent et sont reprises pour de l'agrandissement. Et le retour vers une agriculture conventionnelle. Et les campagnes, de plus en plus, on voit des fermes qui deviennent énormes sans que ni les uns ni les autres ne s'en aperçoivent. Et le grand risque, c'est que demain, on n'aura plus le choix de l'alimentation. On aura une alimentation, celle qu'on voudra bien nous proposer, au prix où on voudra nous la proposer, et point barre. Donc j'entends souvent qu'effectivement, il y a d'autres priorités, que c'est compliqué, etc. Mais l'alimentation fait partie des moments de plaisir qu'on peut avoir, qu'on peut partager. C'est aussi très très lié à la santé. Et juste pour rappel, le deuxième amendement du serment d'Hippocrate, c'est tu feras ton alimentation ton premier médicament. Donc ça, il faut peut-être y penser pour que notre campagne ne se transforme pas trop vite en désert.
Donc nous, on a un cheval de bataille un peu ici, là, ouais. Sur la ferme. Et quand on a des retours clients sur... ça paraît un peu cher, vous pouvez m'expliquer pourquoi les haricots sont à tel prix, etc. On essaye d'expliquer, donc de détailler effectivement un peu le temps passé dans ces cultures, quoi, et pourquoi ça a ce prix-là. Et aussi de dire que finalement, si jamais cette même personne se retourne vers un autre produit, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'un euro dépensé dans l'alimentation, c'est... les filières neutres, qui auraient soi-disant, n'existent pas, quoi. C'est soit ça va dans un sens écologique, plus humain, on défend une filière où on fait une agriculture qui essaye de préserver autant que possible. C'est ce qu'on fait, je pense, au quotidien, au mieux qu'on peut, ce qu'on a de ressources. Ou au contraire, comme disait Magali, on part sur des filières qui vont consommer des ressources. Jusqu'à ce que... Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc vraiment, c'est un choix qu'on fait. Donc à chaque fois qu'on achète un produit, alimentaire ou pas, ça a un impact quelque part, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est de rappeler que les consommateurs sont quelque sorte nos employeurs. Nous, quand un client, un consommateur vient nous payer un légume, c'est... notre revenu qui est en jeu. Donc si on nous dit « Ah, vous pouvez essayer de le baisser, quand même faire un effort », c'est comme si votre patron vous disait « Dis donc, tu pourrais pas être payé un peu moins cher, s'il te plaît, parce que bon, voilà, c'est un peu dur. » Non, en fait, on a tous besoin d'un minimum. Et ce minimum-là, on le voit, on y est à peine. Quand on parle de seuil de pauvreté, on y est à peine, finalement. Donc... voilà, c'est vraiment important de se rappeler que chaque consommateur participe à nous, notre mode de vie, notre qualité de vie, et par le fait que une partie de ce qu'il nous achète nous revient.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Guillaume et Magali, d'avoir répondu à nos questions. Et on vous dit au mois prochain avec Léna. À bientôt.
C'était La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.